Chapitre 34. Après avoir laissé derrière eux les citadins de Lockridge, tous acharnés à reprendre le cours de leur vie, Nietzsche, Nathan et Bannon suivirent la route et s'enfoncèrent un peu plus dans les montagnes. Même s'ils se concentraient surtout sur ses concitoyens qui avaient besoin de son aide, le maire leur avait confirmé que Colladère se trouvait au-delà de la chaîne de montagnes et d'une grande vallée. Après l'affaire du juge suprême, Nathan était plus déterminé que jamais à redevenir entier. La route, jadis sillonnée par des caravanes commerciales, était à l'abandon. Des pins et des chênes y poussaient, résolus à effacer la cicatrice laissée dans la forêt par le passage des hommes. Fermé comme une huître, Bannon ne s'intéressait plus à rien. Maussade, enclin à tout voir en noir, il continuait de souffrir à cause du juge suprême. Regardant son passé en face, Nietzsche avait depuis longtemps surmonté ses remords. Moins expérimenté, le jeune homme ne parvenait pas à accélérer la cicatrisation de ses plaies. Bien entendu, Nathan essaya de lui remonter le moral.
« On avance plutôt vite, fiston. Que dirais-tu d'une pause? On pourrait s'entraîner un peu à l'épée. »«
Non, merci, » répliqua Bannon. « Avec les Selkas et les Norukaïs, j'ai eu mon compte d'exercice. »«
C'est vrai, » concéda Nathan. « Mais quand on s'entraîne, on peut s'amuser. »
Après avoir contourné un gros rocher couvert de mousse, Nietzsche lança au sorcier
« Il pense peut-être que tu es pour de bon et plus amusant. »« J'ai fait ce qui s'imposait, » se défendit Bannon. « Les gens ont besoin de protection. On ne peut pas toujours être là au bon moment, mais quand on réussit, il faut faire de son mieux. »
Les trois voyageurs arrivèrent devant un cours d'eau dont le courant, plutôt vif, ourlait d'écume les rochers. Remontant sa robe, Nietzsche commença à traverser sans se soucier de mouiller ses bottes. Nathan préféra chercher un endroit plus praticable et finit par trouver un tronc d'arbre abattu qui faisait office de pont. Après avoir joué les équilibristes, il regarda Bannon avancer sur le tronc sans même se soucier d'où il mettait les pieds. Nietzsche commença à trouver le problème inquiétant. Un compagnon de voyage si concentré sur ses états d'âme pouvait leur faire défaut en cas de pépin, et ce n'était pas acceptable. La magicienne vint accueillir le jeune homme sur la berge.
« Nous devons régler ça, Bannon Farmer, » dit-elle. « Videz l'abcès si tu préfères. Je sais que tu ne nous dis pas toute la vérité. »
Sur la défensive, Bannon recula d'un pas, le regard voilé.
« La vérité sur quoi ?»« Ce que le juge suprême t'a forcé à voir. »« Qu'est-ce qui te ronge, Bannon ?»« Je te l'ai déjà dit. »
Le jeune homme semblait avoir envie de s'enfuir à toutes jambes.
« Je n'ai pas pu empêcher un type de noyer des chatons. » « Douce mère la mère, ça te paraît peut-être enfantin, mais ce n'est pas à toi de décider à ma place. »«
Je ne te juge pas, crois-moi, mais je cherche à comprendre. »«
Fiston, » intervint Nathan, « tu ne nous feras pas croire que le juge suprême a trouvé ton histoire de chaton pire que l'enlèvement de Yann. »
D'un sourire, le vieil homme tenta d'exprimer toute sa compassion.
« Pourtant, la lumière m'était moins que j'aime les chatons. Il y a 400 ans de ça, les sœurs m'ont autorisé à en avoir un. Je l'ai élevé, je l'adorais, mais lui, il vagabondait, ravi de chasser les souris et les rats aux quatre coins du palais, un très grand palais. Vu que ça remonte à 4 siècles, ce chat doit être mort à présent. Ça faisait un bail que je n'avais plus pensé à lui. »
Sans guère de succès, Nietzsche tenta d'adopter un ton plus conciliant.
« Tu es notre compagnon, Bannon. Voyageons-nous avec un criminel? Je n'ai aucune intention de te punir, mais je dois savoir. Dans ton état actuel, tu es un boulet. »«
Je ne suis pas un criminel !»
explosa Bannon. Il s'éloigna furieux. Nietzsche fit mine de le suivre, mais Nathan la retint, une main sur son épaule.
« Quoi que ce soit !» cria-t-elle à Bannon. « Je ne te jugerai pas. Pour décrire mes crimes, il faudrait des mois. Un jour, histoire de montrer ma cruauté à des villageois, j'ai fait rôtir un de mes généraux, vivant. »
Bannon se retourna, surpris et révulsé. Nietzsche croisa les bras.
« Tu n'as pas réussi à sauver des chatons. C'est peut-être vrai, mais je doute que le juge suprême t'aurait condamné pour ça. »
Bannon s'agenouilla, s'aspergea le visage, s'écarta du cours d'eau et s'engagea sur un sentier qui serpentait entre des massifs de lilas.
« C'est une longue histoire, »
soupira-t-il sans se retourner.
« Dans ce cas, »
dit Nathan.
Elle peut attendre ce soir quand nous dînerons, si nous trouvons de quoi manger.
Dans les broussailles, Bannon dérangea deux grouses bien grasses qui sautillèrent sur quelques pas avant de s'envoler. Presque sans y penser, Nietzsche leva une main et força le cœur des oiseaux à s'arrêter. Raides mortes, les grouses s'écrasèrent sur le sol.
« Voilà, nous avons de quoi dîner. Et c'est un très bon emplacement où camper. Un ruisseau, du bois pour le feu et tout le temps d'écouter une histoire. »
Vaincu, Bannon commença à ramasser du petit bois. Pendant que Nathan préparait les grouses, Nietzsche alluma le feu avec son pouvoir. Alors que le repas cuisait, Bannon s'isola et se plongea dans ses souvenirs, comme s'il tentait de faire le tri. Après s'être goinfré de viande, il retourna près du cours d'eau pour faire sa toilette, puis revint près du feu et déglutit péniblement. Nietzsche comprit qu'il était prêt.
« Sur mon île, chez moi, je ne suis pas parti seulement parce que je m'ennuyais, et je ne menais pas une vie de rêve. »
« Il est très rare qu'on le puisse, fiston, » souffla Nathan.
« Non, » corrigea Nietzsche, « ça n'arrive jamais. Mes parents n'étaient pas comme je les ai décrits. Enfin, ma mère, oui, elle m'aimait et je l'adorais, mais mon père... »
Bannon chercha les mots exacts, les trouva et dut encore mobiliser tout son courage pour les utiliser.
« C'était un salaud. Une véritable ordure. »
Bannon regarda autour de lui, comme s'il redoutait que les esprits du bien le foudroient sur place pour ses injures. Puis il eut une expression bizarre, comme s'il voyait les souvenirs défiler devant ses yeux.
« Ma mère avait une chatte tigrée qu'elle adorait. Si elle ne crachait pas sur une bonne sieste près de la cheminée, la petite féline préférait se lever sur les genoux de sa maîtresse. Mon père était un ivrogne et une brute. Il menait une vie minable, mais uniquement par sa faute. À force de nous faire porter le blâme, il nous pourrissait l'existence. Il me flanquait des roustes, parfois avec un bâton et le plus souvent à main nue. Je crois qu'il adorait cogner. Mais je n'étais pas sa cible favorite, parce que je courais trop vite. Partisan du moindre effort, il tabassait ma mère. Quand il perdait au jeu, il la coinçait dans un coin. Pareil lorsqu'il était trop fauché pour aller se saouler ou quand elle lui préparait un plat qu'il n'aimait pas. Il la faisait crier, puis pour la punir, il la frappait encore parce que les voisins avaient entendu ses hurlements. En réalité, tout le monde savait qu'il la maltraitait. Mais il aimait qu'elle crie, et quand elle ne le faisait pas, il la tapait encore plus fort. En permanence, elle marchait sur la corde raide pour survivre et me protéger.
Bannon baissa la tête.
Enfant, j'étais trop faible pour m'opposer à mon père. En grandissant, quand j'aurais pu me défendre, je n'osais pas parce qu'il me terrifiait.
Bannon se laissa lourdement tomber sur une souche.
La chatte était le trésor secret de ma mère, son refuge. Après les corrections de mon père, des larmes encore dans les yeux, elle la caressait pour se consoler. Et la jolie petite bête semblait prendre en elle sa douleur et son chagrin. Personne d'autre ne pouvait faire ça. Même si ça n'avait rien de magique, c'était une forme de guérison.
Nathan jeta au loin un dernier os de grouse et se pencha en avant, très attentif. Impassible, Nietzsche ne ratait aucun geste du jeune homme et gravait dans sa mémoire chacune de ses paroles.
Un jour, la chatte a eu une portée de 5 petits, tous adorables, mais elle est morte en accouchant. Le lendemain, ma mère et moi, nous avons trouvé les chatons dans le coin où ils tentaient de téter le cadavre et de se réchauffer dans sa fourrure glacée. Il y avait un tel désespoir dans leur miaulement.
Bannon serra les poings, le regard dans le vide.
Quand ma mère a ramassé le petit cadavre tigré, quelque chose a paru se briser en elle.
« Quel âge avais-tu, fiston ?»
demanda Nathan. Troublé, Bannon regarda le vieux sorcier.
« Ça remonte à moins d'un an. »
Nietzsche eut du mal à cacher sa surprise.
« Pour ma mère, j'ai voulu sauver les chatons. Si petits, avec une fourrure douce et des griffes comme des épingles. Quand je les prenais, ils couinaient comiquement. » Pour les nourrir, on leur donnait du lait avec un dé à coudre. Ma mère et moi, nous trouvions du réconfort auprès de ces chatons. Mais nous n'avons pas eu le temps de les baptiser parce que mon père nous en a empêchés. Un soir, il est rentré foudrage, et je n'ai jamais su pourquoi. Les raisons importaient peu d'ailleurs,
Mais dans son esprit embrumé par l'alcool, nous étions toujours coupables, ma mère et moi. Et il savait comment nous faire souffrir. Pour ça, il le savait. Il est entré, il a pris un sac d'oignons, l'a vidé et s'est approché des chatons. Bien sûr, nous avons tenté de le repousser, mais il a quand même réussi à les fourrer dans le sac. Il miaulait pour appeler au secours, mais nous ne pouvions rien faire.
L'air de plus en plus accablé, Bannon ne regarda pas ses interlocuteurs.
J'ai voulu le frapper, mais il m'a giflé à la volée. Ma mère l'a supplié, en vain, parce qu'il avait trouvé un moyen de lui faire encore plus mal qu'avec ses poings.
« Leur mère est morte, a-t-il dit, et vous ne gaspillerez plus de lait. »
Bannon eut un rire amer.
« Gaspiller quelques dés à coudre de lait. C'était une idée si absurde que je n'ai su que répondre. Sur ces mots, le vieux salaud est sorti de la maison. J'aurais voulu le suivre et l'affronter, mais je suis resté pour réconforter ma mère qui pleurait à chaudes larmes. Enlacés, nous nous sommes bercés comme des enfants. Mon père venait de lui voler tout ce qui lui restait de sa chatte adorée. Soudain, j'ai décidé d'agir. Je savais où il allait. Un cours d'eau coulait non loin de là, l'endroit parfait où jeter le sac. Les chatons allaient se noyer, glacés et impuissants, sauf si je les sauvais.
Quoi que je fasse, j'allais avoir droit à une raclée, mais ça ne serait pas la première, et je n'avais jamais eu l'occasion de sauver des êtres que j'aimais.
Je suis sorti dans la nuit sur les traces de mon père. J'aurais voulu crier qu'il n'était qu'un fumier, mais je me suis tu pour qu'il ne m'entende pas venir.
Ivre mort, il ne faisait pas attention à ce qu'il y avait autour de lui. De toute façon, il ne s'attendait pas à me voir lui résister. C'était la première fois.
Au bord de l'eau, je l'ai vu se préparer à lancer le sac.
Et il ne jubilait même pas, comme s'il avait oublié ce qu'il contenait.
Sans hésitation ni remords, il l'a jeté dans l'eau. Comme il l'avait lesté de pierre, le sac n'a pas tardé à couler. Je crois encore entendre nos chatons miauler. Douce mère la mer. Je n'avais pas beaucoup de temps. Une minute ou deux peut-être. Mais si j'approchais trop, mon père risquait de m'attraper puis de me cogner jusqu'à ce que je perde connaissance. Il était bien capable de me casser un os ou deux. Le pire, c'est qu'il m'empêcherait de sauver les chatons. Caché dans le noir, le cœur affolé, j'ai attendu.
Ce monstre n'a même pas pris le temps de savourer son geste. En titubant, il est reparti vers la maison.
J'ai couru le long du ruisseau, glissant sur les rochers humides. À la lumière de la lune, j'ai cherché le sac, mais le temps filait.
Après les pluies du printemps, le courant se révéla plus fort que je l'aurais cru.
Au sortir d'un lacet, j'ai aperçu le sac, remonté un instant à la surface avant de sombrer de nouveau. À force de courir, j'ai glissé et je me suis étalé dans l'eau, mais je m'en fichais. À plat ventre, rampant plus que nageant, je tendais les bras pour attraper le sac. J'ai ramassé de la boue, une branche basse m'a entaillé le front et je ne voyais toujours pas ce maudit sac. Les chatons ne miaulant plus, j'aurais dû comprendre que c'était terminé. Mais j'ai insisté.
J'ignore comment j'ai fini par repêcher le sac. Pourtant mes doigts se sont refermés dessus.
Riant et pleurant à la fois, je l'ai sorti de l'eau. Il pesait étrangement lourd, mais je l'ai quand même posé sur la berge, essayant de l'ouvrir. Avec mes doigts blessés et engourdis, je n'ai pas pu, et il m'a fallu le déchirer avec les ongles. Ensuite, j'ai déposé les chatons sur le sol. En criant des noms rageurs, j'ai touché ces pauvres petites bêtes, leur fourrure gonflée d'eau. On aurait dit des poissons qu'on sort d'un filet, et aucun ne bougeait.
Pour les réanimer, je leur ai soufflé sur le nez, puis j'ai appuyé doucement sur leur ventre afin qu'ils recrachent l'eau.
Mais leurs jolies petites langues pointaient entre leurs crocs et rien ne s'est passé. Pourtant, dans ma tête, je les entendais encore miauler alors que le sac s'enfonçait dans l'eau. Pauvres petits chéris, tellement jeunes et qui n'avaient jamais connu leur mère. Leur miaulement, ai-je compris, c'était à moi qu'ils s'adressaient. À ma mère et moi. Et nous ne les avions pas sauvés. Nous ne les avions pas sauvés.
Bannon éclata en sanglots.
Maman, j'ai couru aussi vite que possible et j'ai réussi à sortir le sac de l'eau. Mais ils étaient tous morts, maman, tous morts.
Assis sur un rocher près du feu de camp, Nathan se pinça le menton entre le pouce et l'index.
Fiston, dit-il plein de compassion, tu as fait de ton mieux. Je ne vois pas ce que tu aurais pu tenter de plus. Mais si tu gardes en toi cette culpabilité, elle finira par te tuer.
Les yeux rivés sur Bannon, Nietzsche souffla.
Ce n'est pas ça qui le hante, sorcier.
Le vieil homme sursauta.
Pour la première fois, Bannon leva la tête et braqua sur la magicienne des yeux soudains sans âge.
« C'est vrai. Pas ça. Pas ça du tout. »
Le jeune homme croisa les mains, les décroisa, puis trouva le courage de continuer.
« Au pied d'un saule, sur la berge, j'ai creusé un trou à main nue. Au fond, j'ai déposé les chatons, le sac sur eux, comme une couverture qui leur tiendrait chaud dans cette nuit glaciale. Après les avoir recouverts de terre, j'ai empilé des pierres sur la tombe pour pouvoir la montrer à ma mère. Bien entendu, je ne voulais pas que mon père découvre où ils étaient ni ce que j'avais fait. Je suis resté un long moment à pleurer, puis j'ai repris le chemin de la maison. Avec mes yeux rouges et mes vêtements mouillés, je savais que mon père aurait des soupçons et qu'il me rouerait de coups, à moins qu'il me regarde simplement avec une perverse satisfaction. Après la mort des chatons, je ne voyais pas ce qu'il pouvait me faire de pire, et j'en avais assez de fuir. Mais quand je suis entré chez moi...
Nietzsche se tendit. Voilà, on en était à l'essentiel. Vidé de toute émotion, Bannon parla d'un ton monocorde.
Quand mon père est revenu, ma mère l'attendait. Et elle n'était plus disposée à souffrir. Après tout ce que ce salaud lui avait fait, le meurtre des chatons était le coup de trop. Tandis qu'il franchissait la porte en titubant, ma mère le guettait. Après coup, j'ai reconstitué la scène. Dès qu'il est entré, ma mère l'a frappé avec le manche en chaîne de notre hache à bois. Un coup à la tête, très violent, mais pas assez précis. Juste de quoi entailler le cuir chevelu de son bourreau et le mettre en rage. Elle voulait lui faire mal, et peut-être même le tuer, mais mon père lui a arraché son arme, s'est retourné contre elle et l'a battue comme plâtre. À mon retour, elle était morte. Le visage tellement abîmé que je ne l'aurais pas reconnu. L'œil gauche manquant, le crâne fracassé laissant voir la matière grise. Sa bouche n'était plus qu'une pulpe sanglante, et des dents gisaient autour d'elle ou s'étaient enfoncées dans sa chair à vif. Le vieux fumier m'a attaqué, manche de hache au poing. Sans rien pour me défendre, je lui ai pourtant sauté dessus et j'ai tout oublié, je crois. J'ai dû frapper, griffer et mordre. Alerté par le vacarme, des voisins sont arrivés à temps pour me sauver. Sinon, ce maudit poivreau m'aurait sans doute tué aussi. Faudrage, je voulais me battre, mais ils m'ont tiré à l'écart, puis ils ont maîtrisé mon père. Il était couvert de sang, un peu à cause de sa blessure à la tête, mais c'était surtout le sang de ma mère. Une voisine a envoyé son fils chercher le magistrat en ville.
Haletant, après avoir revécu la scène dans ses moindres détails, Bannon dut reprendre son souffle avant de continuer. Un oiseau s'envola d'un pin et poussa un cri perçant.
Je n'ai pas pu empêcher mon père de noyer les chatons. Et je n'ai pas pu non plus sauver ces pauvres petits. Mais j'ai perdu du temps à chercher le sac, même si j'aurais dû savoir qu'il était trop tard. Puis il y a eu ces stupides funérailles et mes pleurs, alors que j'aurais pu être près de ma mère et la sauver.
La détresse dans les yeux de Bannon réussit à glacer jusqu'au sang de Nietzsche.
Si j'étais resté avec elle, je l'aurais protégée. En ne courant pas après les chatons, j'aurais eu l'occasion de me dresser contre le vieux salaud. Elle m'aurait aidé, et à nous deux, nous l'aurions neutralisé. Après ça, il ne nous aurait plus jamais touchés. Mais j'ai choisi les chatons et laissé ma mère seule face à ce monstre.
Bannon se leva, épousta son pantalon et parla sur le ton d'un éclaireur qui fait son rapport.
Je suis resté sur l'île assez longtemps pour assister à la pendaison de mon père. Grâce à la générosité de plusieurs voisins, j'avais assez d'argent pour devenir cultivateur et fonder une famille. Mais la maison empestait trop le sang et il n'y avait plus rien pour moi à Chiria. Du coup, j'ai signé sur le premier bateau en partance de notre petit port, le randonneur des vagues que vous connaissez. Un départ définitif, avec l'objectif de trouver un meilleur endroit où vivre. Quelque chose qui corresponde à mes rêves.
Si je comprends bien, dit Nathan, tu as altéré tes souvenirs, occultant la réalité sous une couche de fantasmes idéalistes.
Moi,
intervint Nietzsche. J'appelle ça des mensonges.
C'est le bon terme, dit Bannon. La réalité est un poison mortel. J'essayais de l'embellir. C'était si mal?
Désormais, Nietzsche ne doutait plus des bonnes intentions du jeune homme. Avec une sincérité touchante, il essayait de faire du monde un endroit idyllique qu'il ne serait jamais. Quand Nathan lui posa une main sur l'épaule, Bannon tressaillit comme si ça lui rappelait les coups de son père. Le vieux sorcier ne retira pas sa main, affermissant au contraire sa prise.
« Fiston, tu es avec nous maintenant. »
Bannon acquiesça et s'essuya les yeux d'un revers de la main. Redressant les épaules, il se força à sourire.
« Oui, avec vous. Et c'est très bien. »
Nietzsche se fendit d'un hochement de tête approbateur.
« Tu es plus fort que je l'aurais cru, jeune homme, »
alla-t-elle jusqu'à dire.